Tu avais attiré l'attention dans tes tout premiers travaux sur l'immigration, sur les épisodes d'Aigues Mortes,
Oui.
1893, je crois.
Oui.
Est-ce que tu peux en dire un mot vu sous l'angle de mélange de problèmes sociaux et de questions identitaires et de racialisation des Italiens?
Voilà. Oui, c'est effectivement d'ailleurs, le mot xénophobie, il date aussi de la même période. Donc, c'est la différence qu'on fait traditionnellement. Xénophobie, c'est étymologiquement la haine de l'étranger. Hein. Donc, la xénophobie, ben, elle s'applique, oui, à des catégories de populations qui sont étiquetées comme étrangers, qui ne sont pas caractérisées par leur religion, par leur tradition spécialement, mais par leur statut d'étranger. Alors, effectivement, en France, ça a été un phénomène extrêmement important. Moi, j'ai eu tendance, enfin, j'ai écrit aussi que la manière de légitimer l'antisémitisme en France, ça a été de le coupler à l'antisémitisme juif allemand. Hein,
Ah, de légitimer la xénophobie.
De légitimer, mais aussi
Oui, non, mais
l'antisémitisme.
les deux
Oui.
ensemble, c'est
Les deux
ça.
ensemble, voilà, d'articuler les deux. Parce qu'il y a eu en France, pour des raisons historiques évidemment faciles à comprendre, les guerres, les envahissements, voilà, une facilité à rejeter l'étranger. Et donc ça s'est produit effectivement, notamment sur le marché du travail, donc à l'intérieur du monde ouvrier. Et Aigues Mortes est
Ah,
un.
tu peux rappeler
Oui,
cet
Aigues Mortes
effet?
est un bon exemple, puisque donc dans cette ville du sud que beaucoup de gens connaissent parce qu'aujourd'hui c'est une ville touristique, eh bien c'est une ville des Salins, d'exploitation du sel. Donc à la fin du 19e siècle, l'entreprise fait venir des Italiens pour lever le sel. Ce n'était pas encore mécanisé, c'est un travail extrêmement dur. Et comme il y a une période de chômage qui se développe, les Français qui ne voulaient plus faire ce boulot veulent être embauchés. Et donc ça crée des frictions, des polémiques et de la violence. Et c'est le plus grand, on peut dire, pogrom, au sens où c'est la population majoritaire qui s'acharne sur cette minorité italienne, que l'on est connu à l'égard des immigrés, puisque on estime qu'il y a une dizaine de morts et une centaine de blessés. Ça va donner un contentieux entre la France et l'Italie extrêmement grave. On a deux doigts, paraît-il, d'une guerre entre les deux pays. Et finalement, le procès aboutira à innocenter tout le monde. Donc c'est une injustice, et il paraît même que Mussolini aurait dit, quand il a envahi la France, que si envahissait Aigues Mortes, il raserait la ville pour venger Aigues Mortes. Donc c'est un contentieux aussi qui a alimenté le chauvinisme, je dirais le nationalisme des deux côtés de la frontière. Et là, on a un bon exemple de xénophobie, puisque l'Italien est le bouc émissaire à l'époque. Hein. C'est sans doute le groupe qui a subi le plus de violence avec les Algériens. Dans la période suivante, à partir de la guerre d'Algérie, le plus grand nombre de victimes. Hein. Il y a eu tous les ans, il y avait des morts
Mais
italiens dans les mines, dans les usines.
l'italien, c'est ça qui m'avait frappé dans ce que j'avais lu à l'époque, l'italien, il est presque racisé. Il est, on en parle comme on peut parler plus récemment des Algériens ou autres. On l'animalise, on l'essentialise. Enfin, il n'est pas juste un étranger.
Non, il y a c'est pour ça que le terme de race, il était beaucoup plus polysémique à cette époque-là qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, on parlait de race allemande aussi. Hein. L'allemand était considéré comme une race. Alors, on distinguait les races inférieures et les races antagonistes. Hein. Donc, et l'italien, oui, c'est-à-dire stéréotypé, quoi, ramener un certain nombre de caractéristiques. Et la religion, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on dit aujourd'hui, ah oui, mais avec les Italiens, ils étaient catholiques comme nous. Mais non, justement, on les appelait les Christos. Hein. C'était un terme très péjoratif, les macaronis ou les Christos, parce qu'ils étaient considérés comme trop croyants, parce que la laïcisation des classes populaires, elle était déjà en marche à cette époque-là. Bon, enfin, on voit comment c'est une fabrication. On peut racialiser des groupes, je dirais à l'infini par le fait. Il suffit qu'il y ait un contexte, c'est très important le contexte. Par exemple, à l'époque, l'Italie, évidemment, alliée à l'Allemagne, hein, c'est la triplice, c'est l'ennemi aussi sur le plan politique. C'est le thème du couteau italien. Il y a tous ces faits divers, l'exploitation des faits divers, c'est très important. On prend un fait divers et on le généralise. Ça, c'est la technique, on le trouve chez Drummond déjà. Hein. On trouve un crime qui a été commis par un étranger. Et on essentialise en faisant une menace générale. C'est aussi ce qu'on retrouve aujourd'hui par rapport aux formes, ce qui alimente les formes actuelles de racisme, de qu'on appelle l'islamophobie par exemple, se nourrit beaucoup de ces choses-là. Par exemple, en 1894, il faut rappeler peut-être que le président de la République française est assassiné par un anarchiste italien, Caserio. Bon, imaginons la même chose aujourd'hui. On voit quand même, alors là, il y a une chasse à l'italien dans un grand nombre de villes de France, notamment à Lyon, où l'assassinat avait eu lieu, et des milliers d'Italiens qui fuient, qui retournent en Italie, et d'autres qui vont franciser leur nom, qui vont enlever le haut à la fin, etc. Enfin, il y a donc des formes extrêmement violentes qui existent et qui se jouent dans des périodes de crise, de concurrence sur le marché du travail, manger le pain des Français, etc. Donc là, il y a une forme spécifique de haine de l'autre par le fait qu'on appelle la xénophobie, qu'il ne faut pas dissoudre, comme on le voit parfois, à l'intérieur du racisme, parce qu'elle a des formes particulières. Elle est beaucoup liée à des questions sociales. Tout ça se conjugue sous la forme de récit. Parce que la mise en récit, c'est aussi quelque chose de très important. Tu vois, c'est aussi cette dimension, souvent véhiculée par les journalistes, mais pas seulement, les écrivains aussi peuvent évidemment jouer un grand rôle, qui fait que raconter une histoire, mettre ça en histoire avec des personnages, des méchants, etc., a un impact très, très fort.
Des Italiens sont poussés dans un fossé plein d'eau. Ceux qui veulent en sortir sont roués de coups. Les pierres pleuvent, le sang ruisselle. Un sinistre individu achève à coups de trique deux blessés tombés dans la bagarre. L'un près d'un arbre, l'autre près des remparts. L'après-midi, la chasse à l'homme reprend dans les rues d'Aigues-Mortes. Deux Italiens sont reconnus sur la place Saint-Louis et assaillis à coups de bâton.
Ce que souvent, nous, on aurait tendance à dénoncer, le storytelling, eh bien, il faut l'affronter. Moi, quand j'ai été convaincu de cela, que je me suis rapproché des artistes. Parce que je dis, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Il faut en passer par là, puisque ça fonctionne comme ça, qu'on le veuille ou non. Il y a un temps, il y a une sphère proprement intellectuelle, rationnelle. Là, il faut être présent. Mais en même temps, il faut être capable de traduire, de transposer dans des langages qui vont toucher. Sinon, on est out, on ne participe pas à la lutte à armes égales, j'allais dire, avec les politiciens, les journalistes, etc.